Devenir lanceur d'alerte. Une production de la revue Les Périphériques vous parlent avec le philosophe et journaliste d'investigation Roger Langlais. Dixième partie.
Quels sont les risques que je prends quand je lance une alerte? De quoi dois-je le plus me méfier?
Les risques, en fait, sont de deux natures. On peut distinguer les risques juridiques ou judiciaires, les risques de procès, et puis, en premier lieu, les risques de décrédibilisation dans les médias. C'est d'abord la réaction des gens qui vont se trouver mis en cause, et donc essentiellement les producteurs de risques, c'est-à-dire les industriels avec leurs produits, et puis aussi les éventuels responsables politiques
ou les hauts fonctionnaires
qui auraient dû intervenir en amont et qui ne l'ont pas fait. Et qui peuvent éventuellement ne l'avoir pas fait pour des raisons plus ou moins difficiles à avouer. Donc ils auront tendance souvent à minimiser le dossier, les risques, etc. Donc on peut avoir là une concertation, souvent une concertation effective, entre certains acteurs politiques ou sanitaires et puis les industriels qui peuvent s'entendre plus ou moins tacitement minimiser les risques pour rassurer le public. Toujours au nom d'un risque de psychose, une exagération, de sensationnalisme des médias, etc. Donc, toute cette rhétorique en place que souvent on voit se développer, donc des gens qui vous disent « Oh là là, la théorie du complot » ou « le catastrophisme, l'exagération », etc. Ça, on y a affaire systématiquement. Premier risque, c'est de voir se lever cette vague qui tente de vous décrédibiliser. Ça peut aussi prendre la forme d'accusations plus personnelles. On peut très bien, c'est souvent le cas, accuser le lanceur d'alerte d'être incaractériel ou quelqu'un de dérangé mentalement, etc. Lorsque vous êtes producteur d'articles ou de livres et tout ça, c'est déjà plus difficile de vous accuser de ça. Mais tant que vous n'êtes pas connu du tout et que donc vous n'avez pas l'outil des médias entre les mains, en tant que journaliste, alors très souvent, effectivement, on vous accuse d'être fou, tout simplement. Il arrive même que des médecins lanceurs d'alerte soient accusés d'être fous, y compris par une partie de la corporation médicale ou par leurs autorités sanitaires. Donc là, c'est extrêmement difficile à ce moment-là à vivre et ça confirme bien l'idée qu'il ne faut pas rester seul. J'ai même vu des médecins rester tout seuls, être conduits littéralement au suicide après avoir été radiés ou mis en cause publiquement de façon tellement grave qu'ils ne supportaient pas finalement.
Le lanceur d'alerte, s'il est victime directe, peut être aussi accusé d'intenter un procès à des fins strictement pécuniaires également.
Non, la victime, bien sûr, a toujours intérêt à avoir des réparations. Souvent, le drame, il est tel qu'il est normal d'obtenir un minimum de réparation. Je vous rappelle que dans le cas du sang contaminé,
c'était l'équivalent de 15 000 euros qui était remboursé aux parents, alors que la contamination à l'époque était considérée comme mortelle. En échange, les autorités demandaient à ses parents d'abandonner toute idée d'intenter un procès.
Tous presque s'en sont contentés, ou ont dénoncé, mais enfin en tout cas ont accepté le deal. À ma connaissance, pour les autres affaires, les arrangements à l'amiable en France sont beaucoup moins courants, mais enfin ils sont quand même parfois proposés. D'une façon générale, c'est vrai qu'il vaut mieux saisir la justice, ça reste l'outil citoyen par excellence. Il y a une égalité devant la justice, et puis en cas de faute et de dégâts, les réparations qui sont normalement prévues. C'est un des facteurs de régulation du système. Si l'industriel n'avait jamais rien à payer pour les dégâts qu'il entraîne, il n'aurait plus du tout à faire de prévention, il pourrait y aller les yeux fermés, et ça serait le grand n'importe quoi. Donc c'est important de saisir la justice. Alors il faut savoir que le lanceur d'alerte peut aussi, lui, saisir la justice lorsqu'il est diffamé. Il m'est arrivé, et j'en connais d'autres à qui c'est arrivé aussi, de gagner des procès lorsque quelqu'un vous accuse d'être un menteur ou un fou ou un catastrophiste, etc., pour des dangers qui sont avérés. Vous pouvez aller en justice parce qu'on vous a accusé de dire n'importe quoi et gagner des procès et avoir des indemnités d'ailleurs, et surtout donc de démontrer au public et aux médias à ce moment-là qu'il y avait un mensonge à votre encontre et la volonté de vous décrédibiliser alors que vous mettiez sur la place publique des éléments extrêmement importants pour la société. Que ça touche à la corruption, d'ailleurs, dont on n'a pas encore parlé, ou à la santé publique ou à l'environnement, il ne faut jamais se laisser faire, jamais se laisser diffamer si ce n'est pas justifié.
Dixième question, prise 2.
Les risques, donc là, on a commencé à en parler, ils peuvent être aussi de nature judiciaire. C'est-à-dire qu'on peut vous faire des procès, alors notamment ce qu'on appelle les procès bâillons, qui sont destinés non seulement à vous intimider, vous faire taire, mais à faire taire aussi, à intimider les journalistes ou les porteurs de l'alerte, ceux qui ne sont pas forcément des lanceurs d'alerte, mais qui peuvent porter votre alerte, la relayer, etc. Et c'est souvent très dissuasif. L'industriel vous fait un procès et tout le monde autour se tait et attend le résultat du procès pour éventuellement reprendre l'alerte. Et ça peut durer très longtemps. Un an, deux ans, avec les appels, la cassation, etc., ça peut prendre des années et entre-temps, l'alerte peut très bien retomber. À vous, dans le cadre d'un procès comme ça, de continuer à aller voir les médias, de les intéresser au procès, aux pièces du procès éventuellement, etc., et même voir à l'ensemble des éléments que vous pouvez réunir, qui ne seront pas forcément produits dans le procès, mais qui peuvent intéresser les journalistes. Ce sont les représailles judiciaires, essentiellement donc les procès Bayon, qui permettent pendant un certain temps à l'industriel de faire douter du bien fondé de votre alerte. Là aussi, on a des professionnels du doute en face, qui sont là pour distiller du doute et le faire durer, etc. On le voit même dans le cadre du tabac, par exemple, où les cigarettiers, jusqu'à ces dernières années, encore, même en France, continuaient à essayer de produire du doute sur la cancérogénicité du tabac, en disant tout n'est pas démontré.
Sur le tabagisme passif notamment, il a fallu affronter une mobilisation invraisemblable des experts payés par les cigarettiers pour falsifier les données.
Avec notamment la décondamnation récente de chercheurs qui avaient accepté de l'argent des industriels en échange d'études complaisantes minimisant les effets du tabagisme.
Dixième question, prise 3.
Il y a aussi un danger d'une autre nature pour le lanceur d'alerte, c'est les représailles physiques ou matériel, ou même psychologique. Très souvent, les représentants des personnalités mises en question ou des industriels contactent le lanceur d'alerte pour lui proposer de s'assagir en échange soit de contrats, par exemple, pour travailler ensemble. Donc il y a des précautions à prendre sur le plan financier ou sur le plan de la vie personnelle. C'est vrai que l'intimidation peut aller jusqu'au chantage sur des révélations qu'on peut faire à vos proches, éventuellement sur des aspects de votre vie que vous n'avez pas envie d'avouer, sur le passé, ou avoir des failles bancaires, par exemple. On ne va pas être trop clair sur le plan financier. Il faut bien savoir qu'en face, les intérêts en jeu sont tellement énormes que la tentation est grande pour vous intimider d'utiliser des moyens qui peuvent être aussi redoutables qu'efficaces. Il faut y penser dans la manière d'avancer, non pas pour faire cesser l'alerte, mais pour consolider ses appuis. Il ne faut pas hésiter à passer des éléments de son enquête, voire à passer l'alerte elle-même à des relais. Et puis ne pas trop s'avancer si on n'est pas complètement au clair. Alors après, il y a la question du courage qui rentre en jeu. Mais là aussi, le meilleur moyen de se protéger de tout ça, c'est d'avancer ensemble et de ne pas rester isolé.